Cette méditation de ce matin va se situer entre notre réflexion d'hier et celle de cet après-midi. Les deux thèmes d'hier et de cet après-midi sont différents, puisque hier on a réfléchi sur les addictions, le numérique particulièrement, mais surtout l'attitude qui nous prédispose à devenir malheureusement dépendants. Et cet après-midi, nous parlerons des enfants, tout spécialement de la transmission de la foi aux enfants, de l'importance de la maison. Mais, comme je l'ai dit hier, il y a un lien entre ces deux thèmes. Et le lien, je dirais, c'est la posture du disciple. Et la posture du disciple, c'est à peu près exactement la posture de l'enfant. Je crois que je viens de résumer en une phrase ma prédication, donc si j'ai plus mes notes, c'est bon. La posture du disciple, c'est la posture d'un enfant. Et la posture d'un enfant, c'est la posture d'un disciple. Voilà. Après avoir dit cela, je vous invite à écouter avec moi quelques lectures dans l'Écriture. La première dans le psaume 78, c'est un passage bien classique pour parler de la transmission de l'héritage qui nous a été confié. Donc on va relire ces versets. Psaume 78, versets 5 à 8. Il a été établi un témoignage en Jacob, il a été mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour que cette loi fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle. Mais souvent, quand je lis un texte comme ça, je me dis, je devrais me rasseoir et laisser ce texte maintenant, ou le relire une seconde fois. Surtout quand on a perdu ses notes, c'est assez commode. Mais voilà, c'est un texte magnifique que chacun peut retrouver facilement, bien sûr. Je voudrais lire maintenant le psaume 131. C'est tout différent. Psaume de David. C'est un psaume, je trouve, vraiment très secourable dans beaucoup de circonstances qui peuvent devenir les nôtres. Donc voilà, trois versets qu'on peut apprendre par cœur facilement. Éternel, dit David, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes ou trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Et puis, je vais lire enfin le premier verset de la première aux Thessaloniciens, chapitre 4, juste un verset. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. C'est très beau. Vous savez, souvent, les enseignants disent à un enfant qui a 10 sur 20, peut faire des progrès. Voilà. C'est sur les bulletins de notes. Mais là, ils ont 18 sur 20 et ils disent « vous pouvez encore faire des progrès ». Et pas pour les décourager, pour leur dire « vous n'avez jamais fini d'apprendre, vous n'avez jamais fini d'aller de l'avant ». Même si vous connaissez tous ces textes par cœur, vous n'imaginez pas ce qu'ils contiennent encore de ressources pour gagner du chemin, pour grandir en maturité, pour découvrir la perfection de la révélation de Dieu, pour remporter des victoires, pour avoir un meilleur témoignage, pour être en bénédiction là où vous vous trouvez. Alors, j'ai trois parties dans ce message. Voilà, et je veux tout d'abord dire quelques mots sur la spécificité de l'enfant. J'ai déjà dit un petit peu, il y a quelques instants, ce que j'avais à cœur de partager. Le mot « enfant » vient d'un mot latin, « infans », qui veut dire « celui qui ne parle pas ». C'est vrai qu'un enfant, pendant un an, ne parle pas. Il pleure, il crie, il gazouille, mais il ne parle pas. Pas un mot ne sort de sa bouche. C'est étonnant, pendant un an, c'est quand même un peu long, hein. Voilà. Après, il parle, hein, et souvent, il nous fait rire. Bon, il emmagasine beaucoup de choses. Mais le mot « enfant », en tout cas dans l'original, dans la langue latine, c'est aussi celui qui ne peut pas répondre de ses actes. Donc, il ne sait pas. Et c'est vrai qu'un enfant, il a tout à apprendre, hein. Voilà. Donc, il a beaucoup de potentiel, mais il faut tout lui apprendre. Tout, et ça se fait pas en quelques claquements de doigts. Voilà. Donc, celui qui ne répond pas de ses actes, ça veut dire celui qui n'est pas en mesure de dire pourquoi il fait cela et d'assumer une vraie responsabilité. Dans le contexte juif, c'était jusqu'à l'âge de 12 ans. Je sais pas si c'est une norme qu'il faut retenir ou pas. Pourquoi pas, hein? Ça veut dire qu'à 12 ans, un enfant quand même a appris beaucoup de choses, et il va continuer à apprendre jusqu'à son dernier souffle. Mais, voilà, est-ce qu'on peut considérer qu'à 12 ans, un enfant en sait assez pour répondre de ses actes? Alors, on ne veut pas dire aller en prison s'il se conduit mal, mais en tout cas, pour répondre, il est déjà responsable. On le voit pour Jésus quand il a 12 ans, hein? Il se démarque de ses parents. Ses parents ne comprennent pas ce qu'ils font. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Son horizon est plus large que celui de ses parents. Et ses parents, c'était Jésus et Joseph. C'était Marie et Joseph. Donc voilà qu'à 12 ans, un enfant peut vivre des choses. On pourrait dire qu'il n'est plus un enfant, bien qu'il soit encore un enfant. Je vous propose de retenir cette expression-là. À 12 ans, il n'est plus un enfant, bien qu'il soit encore un enfant. Oui, c'est paradoxal. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc un enfant est quelqu'un qui a encore besoin de quelqu'un d'autre. Hein? Mais est-ce que c'est pas vrai pour chacun de nous? La réponse est oui. Et quand on prend de l'âge, eh bien on a encore besoin de quelqu'un d'autre, et même quelquefois plus que quand on croit pouvoir tout assumer tout seul. Je me souviens d'un homme d'une soixantaine d'années qui venait d'apprendre qu'il avait une maladie incurable et qui a demandé à ce qu'on pratique une euthanasie. Vous savez, hein, c'est dans l'air du temps. Voilà. Et il a confié ça à une infirmière. Hein, et il a dit, je ne veux pas accepter d'être dépendant. C'est pas évident, hein? Qu'on vous lave, qu'on vous lève, qu'on vous tienne par la main, qu'on vous habille. Et l'infirmière a eu cette réponse, je crois, inspirée. Elle a dit, nous sommes tous dépendants. C'est magnifique, hein. Voilà. Elle a vraiment écouté et elle a reçu, je pense qu'elle a reçu de Dieu cette parole, nous sommes tous dépendants. Et je crois que c'est vrai, n'est-ce pas? Vraiment. Affectivement, enfin pour beaucoup de raisons. Et donc, ça c'est un paradoxe de l'Écriture, que nous sommes appelés à devenir des adultes, et donc dès l'âge de 12 ans quelque part, et même peut-être avant, appelés à devenir des adultes, expérimentés, matures, capables de transmettre à d'autres, et en même temps, nous sommes tous appelés à avoir la posture d'un enfant. Un enfant qui écoute. Un enfant, ça écoute normalement. Voilà. Un enfant qui apprend, un enfant qui obéit. Ça nous décrit nous-mêmes, en tout cas en tant que disciples, en tant que chrétiens. On pourrait dire on est redevenus des enfants, sinon on n'est pas des disciples. Et si nous arrive d'oublier cette posture de l'enfant qui apprend, qui suit, qui dit oui, eh bien il nous faudra repasser par la case enfant. Ça, c'est une expression que je trouve parlante. J'espère que vous le comprenez. Repasser par la case enfant. Donc on pourrait dire régresser, quelque part régresser, mais pas régresser pour recommencer à zéro ou pour rester par terre, régresser, redevenir un enfant pour recommencer à apprendre et à grandir. Voilà. Il croissait. Voyez, Jésus à 12 ans, il est dit, il suivit ses parents et il leur était soumis. Donc là, il a compris des choses que ses parents n'avaient pas comprises, mais il leur était soumis. Vous voyez, il était plus un enfant, il était encore un enfant. Voilà. Et il croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Hein. C'est l'évangile de Matthieu, de Luc qui dit cela. Et donc, on voit que le fait d'être soumis ne l'empêchait pas de grandir, au contraire. Et en un sens, plus on est soumis, plus on grandit. En tout cas, il y a une manière d'être soumis qui nous fait grandir. C'est vrai pour un enfant, c'est vrai pour un disciple, c'est vrai pour tout le monde. Alors, vous savez, j'ai beaucoup de situations que j'ai rencontrées dans le cadre de mon ministère d'aumônier hospitalier. J'ai vu des hommes ou des femmes de plus de 80 ans apprendre dans une situation d'extrême faiblesse, quelquefois peu avant de mourir, apprendre des leçons qu'ils n'avaient pas encore apprises jusqu'à ce moment-là. C'est dommage. Et en même temps, c'était heureux, n'est-ce pas? Et j'ai pu voir sur le visage d'hommes ou de femmes de plus de 80 ans, dans une extrême faiblesse, quelquefois peu avant le trépas, j'ai pu voir quelquefois une joie insoupçonnable à cause de ce qu'ils venaient d'apprendre. Voyez, par exemple, qu'il fallait tout lâcher, que devant Dieu il n'y avait pas de résistance à faire valoir, qu'on dépendait entièrement de lui, qu'il fallait abdiquer quelque part pour trouver la paix et placer en lui sa confiance et reconnaître qu'on était pécheurs et s'humilier. Enfin, voilà, c'est leçons qu'on apprend à partir de quel âge? Mais à partir de 1 an, de 2 ans, je sais pas, peut-être même avant. Et qu'on apprend tout au long de notre vie et quelquefois, dans les dernières étapes de notre vie, il y a encore des apprentissages qui vont porter des fruits merveilleux. Peut-être les plus grandes joies peuvent être vécues dans ces moments-là parce qu'on a appris quelque chose qu'on avait ignoré ou choisi d'ignorer pendant toute une vie. Quel dommage. Mais quelle grâce aussi de le vivre encore même quand c'est très tard. Et donc, les disciples de Jésus, évidemment, ont appris cela, et souvent, après un temps d'humiliation, ce que j'appelle repasser par la case enfant. Par exemple, de l'apôtre Pierre, à l'apôtre Pierre, Jésus dit, quelqu'un d'autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas aller. Ils vont dire, ça alors, quel programme, hein? Mais voilà, c'est comme ça que Pierre est devenu l'apôtre qui a ouvert l'évangile finalement aux nations. Voilà, quelqu'un d'autre te ceindra et te conduira où tu ne veux pas aller. Voilà. Et l'apôtre Paul, après sa rencontre avec Jésus, comment c'est dit déjà, acte 9, va dans la ville et là on te dira ce que tu dois faire. On te dira ce que tu dois faire. Vous voyez l'apôtre Paul qui a mené les chrétiens captifs en prison, qui avait des pouvoirs, qui avait une autorité, qui avait une délégation pour mener son plan à bon terme. Et vous voyez l'ambition des hommes et des femmes d'aujourd'hui, et des enfants, et des capacités techniques dont nous bénéficions aussi, qui nous permettent de faire presque tout ce qu'on veut quand on veut. Et là, voilà que l'école de Dieu nous fait passer par un chemin différent. Et donc, dans la relation entre parents et enfants, il y a en même temps une différence, parce que le parent c'est le parent et l'enfant c'est l'enfant. C'est quand même le parent qui va instruire l'enfant, normalement, qui va lui dire maintenant tu t'arrêtes, maintenant viens faire ce que je te dis, maintenant écoute-moi. Maintenant, raconte-moi comment s'est passée ta journée. Voilà. Et en même temps, les parents et les enfants, et même les grands-parents et les petits-enfants,
sont les uns et les autres en train d'apprendre et en train de se tromper et en train de dire je ne sais pas et je ne comprends pas et j'ai besoin que quelqu'un vienne pour nous donner la main, pour nous aider. J'ai vécu cela d'une manière tout à fait significative, je trouve, quand nos enfants étaient petits, nos quatre enfants. On a eu quatre enfants en 5 ans et demi. Donc vraiment, ils étaient tous presque de la même taille. Et surtout que les premiers étaient pas grands et les deux dernières étaient plus grandes. Donc on aurait dit quatre jumeaux. Et donc, le soir, je leur lisais un demi-chapitre de la Bible racontée aux enfants. Vous connaissez ce livre, hein, la Bible racontée aux enfants, d'Anne de Vry, le texte est magnifique. Eh bien, voilà, ils étaient assis sur le lit, j'étais assis à côté d'eux, je lisais le texte. Donc c'est moi qui les instruisais, j'étais vraiment dans la posture du papa, de celui qui transmet aux enfants pour qu'ils transmettent à leur tour. Et les enfants écoutaient. Et après, on disait, maintenant on va prier, et là je priais en nous. Là je priais en nous. Merci Seigneur de nous avoir rappelé ces choses maintenant. Merci de nous garder pendant cette nuit. Et merci de préparer pour chacun de nous maintenant la journée de demain. Et donc, vous voyez, je parlais en tu ou en vous en tant que papa, et après je parlais en nous en tant que disciple. En fait, je suis et je reste un disciple. Et je crois qu'un enfant de chrétien est déjà un disciple. Et donc, on est ensemble des disciples. Et si nous comprenons cela, nous comprenons que ça crée une grande proximité entre les parents et les enfants. Puisque, voilà, des disciples adultes et des disciples enfants. Voilà. Donc, adultes et enfants, mais disciples. Et cette proximité, elle est très favorable pour transmettre la foi. Vous voyez, si un papa dit, là, je comprends pas, eh bien, évidemment, l'enfant, au début, il est troublé, il dit, tiens, mon papa ne comprend pas, c'est un peu effrayant, quoi. Mais alors, du coup, l'enfant porte son regard plus haut et dit, mais alors, peut-être on va demander au Seigneur. Ah oui, bonne idée. Voyez, et donc la défaillance des parents, elle ne manque pas d'arriver un jour ou l'autre, hein. La défaillance d'un papa ou d'une maman, une maman qui pleure, un papa qui se fait mal avec son marteau. Enfin bon, je vous dis des choses un peu stéréotypées, mais bon, c'est pas grave. Et l'enfant dit mais mes parents ne savent pas tout, et ça peut être traumatisant pour eux. Imaginez une scène un peu sotte, hein. Un papa qui trébuche, qui tombe devant son enfant, mais normalement un papa ça tombe pas. L'enfant tombe toutes les 10 minutes, un papa ça tombe pas. Mais un papa qui tombe, mais oui, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vraiment marquer un enfant très fort. Il dit, mais mon papa est tombé. Mais alors, dans quel monde sommes-nous? Voilà. Et donc, voilà. Et là, le papa dit, mais tu vois, voilà, je suis pas un enfant, mais je peux tomber aussi. Il y en a un qui tombe pas, c'est Dieu. Et vous voyez, nos défaillances, nos fragilités peuvent nous rapprocher des enfants et favoriser une bonne communication, ce qui ne veut pas dire qu'on va confondre le rôle des enfants et le rôle des parents. Les enfants sont les enfants, les parents sont les parents. Voilà. Je me souviens d'un prédicateur, Stuart Olliott, lors d'un stage que j'ai effectué à Liverpool, 1978, vous voyez, c'était pas hier, hein. Et c'est un grand prédicateur, un très grand prédicateur. Il était prédicateur à Lausanne aussi, ensuite. Il a terminé sa carrière comme professeur d'homilétique. Donc, il enseignait la prédication. Et je l'ai entendu prêcher devant une église de 400 personnes. Et quelquefois, donc j'ai des enregistrements de lui aussi. Et quelquefois, je l'ai entendu dire, quand il commençait sa prédication, voilà. Ce matin, le Seigneur a choisi un grand pécheur pour vous apporter la parole. Et c'était pas un grand pécheur. Et sa parole était d'une très grande autorité. Voilà. Et ce matin, le Seigneur a appelé un grand pécheur pour vous apporter sa parole. Et donc, c'était sa manière de se mettre au même rang que tout le monde, finalement. Hein. Voilà. Dieu a choisi un serviteur. Dieu a choisi un serviteur et c'est vers lui que nous regardons. Voilà. Voilà. C'était mon premier point. Frères et sœurs, la spécificité de l'enfant, elle nous concerne, quel que soit notre âge, quel que soit notre statut, quelle que soit notre responsabilité. Un adulte qui dort ressemble à un enfant qui dort. On peut dire ça, par exemple. Hein. Mon second point, c'est pour rappeler quelque chose que la Bible mentionne, je crois, très souvent, les enfants, alors vous le savez, hein, vous n'avez rien à apprendre de nouveau ce matin, mais ça ne fait rien. Les enfants comptent aux yeux de Dieu. Voilà. Il faut le rappeler, je crois que je viens de le faire, mais je veux insister encore un peu plus sur ce point. Les enfants ne sont pas oubliés dans la parole de Dieu, comme s'ils étaient de moindre importance, comme s'ils ne comptaient pas beaucoup. Et on pourrait citer beaucoup de paroles, j'en ai retenu trois là. Dieu dit par l'intermédiaire de Moïse en Égypte, « Allez, servez l'Éternel et vos enfants pourront aller avec vous. » Exode 11, 24. Donc vous voyez, on pourrait dire, c'est une situation majeure dans le déroulement de l'histoire du peuple d'Israël. On va dire, les enfants, bien sûr, ils sont là, mais c'est pas eux qui sont concernés au premier chef, quand même. Hein. C'est d'abord les chefs de famille, et puis, voilà. Allez, servez l'Éternel, et vos enfants pourront aller avec vous. Un peu plus loin, dans ce fameux chapitre 6 du Deutéronome, hein, ces commandements que je te donne seront aujourd'hui dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. On parlera de la maison cet après-midi, c'est un point très important. Et puis j'ai voulu rappeler aussi cette parole que Paul écrit dans les Épître aux Éphésiens, chapitre 6, « Enfants, obéissez à vos parents. Père, n'irritez pas vos enfants. » Donc, dans ce passage, on remarque que Paul s'adresse directement aux enfants. Quand même, l'Épître aux Éphésiens, c'est pas rien, hein. Franchement, c'est peut-être le plus haut degré de la révélation que Dieu nous offre, hein. Même nous, hein, chapitre 1, il faut le lire au moins chaque phrase trois fois pour comprendre en partie ce qui est dit, hein. Mais dans cette même épître, hein, Paul s'adresse aux enfants directement. Il dit pas au papa, dites ça aux enfants, il dit enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ça veut dire que l'enfant était déjà capable de comprendre ce que veut dire selon le Seigneur. Ça veut dire, c'est pas simplement pour être gentil, c'est pas simplement pour avoir du dessert, c'est pas simplement pour qu'on dise il est gentil cet enfant, c'est pour plaire à Dieu. C'est pour plaire à Dieu, comme on a lu tout à l'heure dans l'Épître aux Thessaloniciens. Vous avez appris de nous comment vous conduire et plaire à Dieu. Ça s'appelle la piété. C'est un mot qui, entre nous, doit avoir une grande importance, la piété. La colère de Dieu se révèle du ciel contre l'impiété des hommes. La piété, c'est ce qui est agréable à Dieu. C'est donc le cœur du culte, finalement. Hein. Et le culte, c'est tous les jours, quelque part. Notre conduite est un culte, Romains 12 le dit, n'est-ce pas? Et donc le culte, c'est pas d'abord pour nous faire du bien, vous le savez bien. Hein. C'est pour adopter une posture, hein, qui est agréable à Dieu, qui procure de la joie dans le ciel. Voilà. Et donc les enfants sont concernés par cela. Un adulte peut attrister Dieu, un enfant peut attrister Dieu. Un adulte peut réjouir Dieu, un enfant peut réjouir Dieu. En un sens, pas de différence. Dis oui, mais c'est un enfant, et alors? Il a des choix à faire. Il dit oui, il dit non, il obéit, il ment, il dit la vérité, il est modeste, il est orgueilleux, il est, voilà, comme un adulte en fait. Pas comme un adulte, mais quand même comme un adulte. Voilà. Et donc, j'ai écrit dans ma note, ne prenons pas les enfants pour des adultes, mais ne les infantilisons pas. Donc quand on va parler aux enfants, on va faire en sorte qu'ils comprennent. Mais on va pas dire comme s'ils étaient débiles. Voyez? En fait, les enfants comprennent beaucoup plus que ce qu'on imagine. Donc parlons-leur un langage qu'ils puissent comprendre, mais parlons-leur comme à des êtres qui ont une conscience, une intelligence, une capacité de lire et de comprendre peut-être plus plus importante que ce que nous imaginons, puisqu'ils comprennent même ce qu'on ne dit pas. Et même ce qu'on cache, ils le découvrent. Voilà. Donc, n'infantilisons pas les enfants. Un enfant peut connaître la régénération de son cœur et de son intelligence par l'action de l'esprit. Il n'est pas simplement un élève qui écoute pour avoir des bons points. Il n'est pas simplement concerné par la dimension sentimentale de la vie, par les jeux, etc., comme beaucoup le croient. Il ne s'agit pas de manipuler les enfants en leur imposant des choses qui ne leur conviendraient pas, mais de leur dire la vérité. Voilà. Il s'agit de leur dire la vérité d'une manière adaptée, mais pas édulcorée. Ils ont besoin de la vérité comme nous. Et la vérité sera agissante dans leur cœur comme elle est agissante dans notre cœur. Pas toujours à l'instant, mais la vérité a un pouvoir pour agir, n'est-ce pas ? Et elle s'inscrit dans le cœur d'un enfant si on la dit à l'enfant, sans la peindre en rose. Ben, j'ai rien contre le rose, hein, mais, ou en bleu, voilà, peu importe. Voilà. Disons, nous devons la vérité à nos enfants. Sinon, comment ils vont nous croire, hein, et comment ils vont grandir? Voilà. Et je l'ai dit hier, mais je le redis en un mot ce matin. Rencontrons les enfants en groupe, à l'église ou dans la maison, si on a un, deux, trois enfants, mais rencontrons-les aussi seul à seul. Voilà. C'est pas évident, vous savez. Une semaine passe vite, un mois passe vite, une année passe vite. 10 ans passent vite. Ne ratons pas les occasions que nous pouvons saisir pour rencontrer un enfant seul à seul dans sa chambre, pas seulement quand il a fait une bêtise, aussi pour lui confier quelque chose ou pour lui poser une question ou simplement pour aller marcher, lui donner l'occasion de se confier. Voilà, ça lui révèle qu'il est une personne à part entière quand on est seul avec lui. Il n'est pas simplement un élève de la classe ou un membre d'un groupe, vous voyez. Donc le groupe est important, mais la dimension du seul à seul est également très importante. Je pense que cela concerne les enfants les plus jeunes. Jean-Baptiste a tressailli dans le sein de sa mère, quand même. C'est incroyable cela, hein. Voilà. L'enfant, quand la voix de ta salutation a touché mon oreille, dit la maman, l'enfant a tressailli dans mon sein. Ça doit nous parler quand même, hein. Les enfants, ils sont ce qu'ils sont, hein. Mais voilà. Si un brigand sur une croix peuvent reconnaître en Jésus le Messie, un enfant peut le reconnaître aussi. De toute façon, c'est par révélation. De toute façon, c'est par révélation qu'on découvre notre péché, la grâce de Dieu, le pardon. Et la vie avec le Seigneur. Voilà, je vais aborder mon troisième point, tout simplement maintenant, et mon troisième et dernier point, l'étape de l'enfant, mais voilà, je vous ai donné dès le départ de mon message le cœur de ce que je voulais partager. La posture de l'enfant est à la fois une étape provisoire et permanente. Voilà, on est provisoirement un enfant, on doit devenir un adulte, hein, mais il y a quelque chose de l'enfant qui doit demeurer en nous si nous voulons continuer à apprendre, hein, et donc à grandir. Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Je voulais lire ce passage, je ne l'ai pas lu, mais vous le connaissez, Marc chapitre 10. Et dans cette parole, on pourrait dire, est-ce que c'est une parole pour les enfants? Ben non, ce n'est pas une parole pour les enfants, c'est une parole pour les grands. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire devenir comme un petit enfant? Si vous ne devenez pas comme un petit enfant, pourquoi David, alors qu'il est roi d'Israël, dit, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est dans les bras de sa mère? J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, adulte, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à toujours. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré. Voilà. L'apôtre Jean, par exemple, écrit « Petits enfants, je vous écris ces choses ». Au chapitre 2, il dit en substance « Petits enfants, vous n'êtes plus des enfants. Vous savez en quel temps nous sommes, vous avez reçu le Saint-Esprit. Donc vous voyez, il dit, petits enfants, non pas pour leur dire, allez jouer, pour leur dire, mais vous comprenez ou pas. Comprenez maintenant. Et usez de tout ce qu'on vous a donné pour comprendre et mettre en pratique, et grandir, et gagner du chemin, et devenir des hommes et des femmes pleins de sagesse. Les mots enfants et disciples sont synonymes. Le mot petit et disciple sont synonymes. Vous savez que dans la bouche de Jésus, il y a quelquefois le mot petit. Malheur à qui scandaliserait un de ces petits qui croient. C'est pas les SDF, hein. C'est pas les chômeurs, c'est pas les émigrés. C'est pas ceux qui sont petits de taille. Ce sont les disciples. Le mot petit et disciple sont synonymes. Un disciple, c'est un petit. Alors, le psaume 131 nous le montre. Et si nous sommes grands, il faut devenir petit pour devenir un disciple. Et alors, on va grandir. Voilà. Je vous le dis en vérité, si vous donnez ne serait-ce qu'un verre d'eau à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, vous ne perdez pas votre récompense. Et donc, on va dire, mais petit, mais c'est pas juste. Bon, mais donc Jésus s'est trompé. Bon, c'est embêtant que Jésus s'est trompé. C'est pas grave. On va se débrouiller autrement. Et non, il faut pas passer à côté de cela. C'est une leçon magistrale, hein, et c'est la manière de devenir des hommes et des femmes à qui Dieu accordera une autorité légitime et une vocation féconde et un témoignage qui parle. Voilà. Et donc c'est tout au long de la vie. Par exemple, Paul appelle Timothée mon enfant. Timothée n'était pas un enfant. C'est un adulte qui avait même des responsabilités. Timothée, mon enfant légitime. Plusieurs fois, pas une fois, plusieurs fois, il dit cela. Voilà. Le disciple n'est pas plus que le maître, hein, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Vous voyez, dans ce verset, le disciple est ramené à sa position d'apprenant, mais pas pour le cantonner là, en disant tu es là, tu restes là, tu vas devenir comme ton maître. Peu à peu, progressivement, tu vas devenir un maître toi-même. Mais même comme un maître, tu vas rester un disciple. Jésus nous a montré cela. Jésus qui parlait avec autorité, mais qui dit à son Père, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est la posture d'un enfant. Quelle victoire, hein ! Non pas ma volonté, mais la tienne. Voilà. Est-ce que nous sommes en train d'apprendre et de grandir ? Si c'est le cas, les enfants vont aussi apprendre et grandir. Et les adolescents auront envie de devenir adultes. Quand j'utilise l'expression « repasser par la case enfant », ce n'est encore une fois pas pour régresser, c'est pour grandir, c'est pour continuer à grandir dans la dynamique du royaume de Dieu. Quelquefois, ça passe par une semaine à l'hôpital ou, je sais pas, des moments où l'orgueil tombe par terre comme un vieux vêtement. Et on se retrouve un peu nu, voilà, et on dit, voilà, j'ai besoin. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, vous voyez, par exemple, quand au culte, on vous demande devant, à l'entrée du culte, comment ça va? Ah, ça va super bien. Mon œil. En fait, ça va pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, là? Qu'est-ce qu'on a fait? On a menti juste avant le culte. Après le culte, c'est encore pire. Voilà. Et donc, on dit, ça va super bien, et alors ça l'a pas bien, vous voyez. Donc, on a dit, ouais, je suis plus un enfant. Alors, ça va pas dire qu'on va tout raconter à ce moment-là. Mais on ne devrait pas mentir. Donc, ça va pas trop bien, on devrait dire, je suis un peu fatigué en ce moment, hein. Je suis un peu fatigué. C'est compliqué en ce moment, en fait. Il y a des mots pour dire les choses. Vous les connaissez bien, autant que moi, hein. C'est un peu compliqué en ce moment. Bon, ben, on n'a pas tout dit, mais on n'a pas menti. Ne mentons pas. Apprenons à être comme nous sommes, y compris les prédicateurs, les anciens et les diacres, et les responsables, et les grands-parents. Apprenons à, non pas, à tout dévoiler à tout le monde n'importe quand, mais à ne pas mentir. Et donc, ce que je dis là est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les adultes, et c'est vrai pour les adultes avant
les enfants. Voilà. Je termine avec cette parole. Si les disciples adultes ont cette posture d'humilité qui précède la maturité, les enfants l'auront aussi plus facilement. Vous avez appris de nous comment vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur de marcher à cet égard de progrès en progrès. Est-ce que ça nous fait peur ou est-ce que ça nous fait envie ?